semble que c'est une évidence. Monsieur Avrous a aussi demandé qu'aucune instrumentalisation existe, qu'aucune récupération suive. Le père de Matisse a exprimé également le même souhait. Je rapporte ce matin ces faits et je m'abstiendrai donc de commentaires. À Châteauroux, chacun s'accorde à dire que Gilles Avrous est un bon maire, réélu à 70% au premier tour en 2020. Il tient cette ligne qu'il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Elle est contraire au travail du journaliste. Ne pas mettre d'huile sur le feu, c'est reconnaître qu'il y a le feu, mais qu'il faudrait le taire. Il est 9h, Chana Lousteau.
9h, 9h30, l'heure des pros, sur CNews et Europe 1.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le jeune Afghan de 15 ans, suspecté d'avoir tué Matisse, a été mis en examen pour meurtre. Il a été placé en détention provisoire dans la foulée. Quant à sa mère, elle a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Elle est suspectée d'avoir asséné plusieurs gifles à la victime alors qu'il venait d'être poignardé. Mathilde Panot et Rima Hassan seront entendues par la police à partir d'aujourd'hui. Ces auditions ont lieu dans le cadre de plusieurs enquêtes pour apologie du terrorisme après leur prise de position sur la attaque du 7 octobre en Israël. Mathilde Panot a appelé à un rassemblement à Paris pour dénoncer une tentative de censure, dit-elle. Et puis Emmanuel Macron devrait bientôt s'exprimer sur la situation à Sciences Po, une information du service politique de CNews. En attendant, la région Île-de-France a suspendu ses financements à l'établissement et ce jusqu'à nouvel ordre. Ça fait suite évidemment aux nombreux débordements causés par des militants pro-palestiniens ces derniers jours. Selon la députée Renaissance Caroline Yadan, il faut des sanctions systématiques pour ces étudiants.
Aucune sanction disciplinaire ne sera abandonnée et il est parfaitement possible de prendre des sanctions disciplinaires contre eux. Moi, je suis partisan de sanctions exemplaires, d'une fermeté exemplaire, parce que ce qui est en train de se passer est parfaitement intolérable.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci, Chana. Sarah Salman est avec nous. Vous êtes avocate. Joseph Massescaron, Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Gauthier Lebret sont avec nous. Et Pierre-Alexandre Zal, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris. Ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Hier, je vous ai eu sur Europe 1. Vous nous avez appelé au standard d'Europe 1, d'ailleurs. Je ne vous connaissais pas. J'ai trouvé votre témoignage tellement formidable que je vous ai dit, venez nous en parler en plateau. Pourquoi ? Parce qu'on entend que les minorités actives, agissantes, et votre témoignage, vous avez envie de bosser, vous êtes à Sciences Po depuis 5 ans, on ne parle que des 100 ou 150 qui bordélisent, pardonnez-moi l'expression, Sciences Po, mais la majorité, elle est plutôt comme vous.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, et aujourd'hui, Sciences Po est dans une situation d'une extraordinaire gravité à cause justement de cette minorité étudiante qui parle beaucoup, qui est très bruyante, et qui est en train en fait de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Donc en fait, on est menacé aujourd'hui par cette minorité. Et puis vous avez en face une direction qui ne dit rien, qui cède tout. On pourrait même se demander si on a encore une direction, parce que voilà, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis à Sciences Po. Et en réalité, j'ai connu deux directions, deux administrations provisoires. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. Et donc en fait, tout est permis. Aujourd'hui, des étudiants comme moi qui veulent simplement travailler, on est livrés à nous-mêmes.
Vous avez 23 ans, Exactement. Vous êtes entré à Sciences Po après le bac.
Exactement.
Vous préparez le barreau.
C'est ça.
Vous allez partir aux États-Unis.
Tout à fait.
J'imagine que vos parents doivent être assez fiers de vous et de votre parcours, parce qu'à 23 ans, c'est pas si fréquent de tout réussir aussi vite et aussi bien. Et vraiment, cette majorité silencieuse. Alors, vous n'imaginez pas parfois, entre vous, prendre la parole tous ensemble pour dire... Parce que ceux qui, effectivement, manifestent, c'est souvent pas les étudiants les plus brillants. C'est ceux qui ont bien compris dans la vie qu'ils ne pourront réussir qu'à travers le militantisme. C'est beaucoup plus difficile parfois de réussir dans d'autres domaines. Et vous n'êtes pas tenté de prendre la parole ensemble ?
Ben, vous savez, moi je suis affilié à aucun syndicat, aucun parti politique, mais en fait on a été tellement indignés avec certains camarades de l'école de droit du communiqué qu'on a vu tomber vendredi soir après ce qui s'est passé toute la journée de vendredi, qu'on s'est dit qu'on devait réagir spontanément. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole. Honnêtement, je sais le risque que je prends, parce qu'après je sais le harcèlement qui va en découler, etc. Mais ça me semble important, parce que sinon après la réputation de cette école, elle va être salie par ces minorités qui ne travaillent pas, par ces minorités qui vont salir tout le monde et qui vont nous empêcher, nous, de pouvoir aspirer aux carrières qu'on envisage.
Alors, on parlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po, mais je trouve que vous avez beaucoup de courage. Avant de venir, je vous ai dit, faites attention à vous. On a eu cet échange parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté, parce que le fait que vous interveniez à la télévision fait qu'aujourd'hui, vous allez être un visage connu. Comme vous dites, vous pouvez être... J'ai pensé à vous, hein, ce qui est bien normal, c'est la moindre des choses d'ailleurs. Et vous êtes venu quand même avec beaucoup de courage, et je trouve que vous donnez une leçon de courage, vous avez 23 ans, à tout ce personnel politique, quand j'entends Madame Retailleau s'exprimer, je vous assure, aux âmes bien nées, comme dit l'autre, la valeur n'attend pas. Ça serait intéressant de temps en temps que ce personnel politique vous écoute. On en reparlera évidemment tout à l'heure de Sciences Po, mais Matisse, le drame de Matisse, on va voir le sujet de Chloé Tarka qui nous rappelle les faits.
Plusieurs coups de couteau, dont un au cœur, auront été fatals au jeune Matisse. L'agresseur aurait reçu le même jour un coup de poing de la part de la victime. Pris par la colère, il se serait vengé en lui assénant plusieurs coups de couteau avant de s'enfuir.
Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit.
Alors qu'il agonisait, la mère de l'agresseur de 15 ans a ensuite asséné plusieurs gifles à la victime. Dans le quartier, la femme est connue pour son agressivité.
Il y avait déjà eu une altercation avant, j'étais au jeu là-bas, Matisse était... Je peux discuter avec Matisse. La maman du petit jeune qui est passé à l'acte, elle l'avait insulté parce qu'elle avait fait un petit bruit à la fenêtre, il s'était retourné, il l'avait regardé, puis elle lui avait dit ouais, toi, tourne ta tronche, arrête de nous regarder. Puis elle m'avait dit ouais, toi, sale p***. Enfin voilà, il y avait vraiment une tension. Hein.
Le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre à l'encontre du mineur et pour violence volontaire à l'encontre de la mère.
C'est vrai qu'on écoute le père de Matisse qui a témoigné au micro de Radio Luxembourg.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et même à tout, quoi. Et même Matisse. Personne ne sait ce qui s'est passé, j'entends de tout et de rien. Donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura. Ça avance bien déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout. Et faites attention à tous les bords de droit, tout d'ailleurs, qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Gilles Averrousse. Et je disais tout à l'heure qu'il a souligné l'ensauvagement sans jamais pointer la responsabilité de l'immigration. Écoutons-le.
Les deux protagonistes, l'auteur comme la victime, ont 15 ans. Ça, c'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. Il y a un vrai sujet national sur cette thématique-là. Il y a besoin aujourd'hui de prendre des mesures rapides. Je sais que le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours et a donné, je crois, un délai de 8 semaines pour pouvoir faire des préconisations. Mais il est vraiment très, très urgent de redéfinir une politique en la matière qui soit à la fois sur le plan judiciaire, avec des moyens pour la justice de pouvoir peut-être plus facilement priver de liberté des jeunes de moins de 16 ans qui seraient mis en cause, puisque là, en l'occurrence, le meurtrier, à deux reprises, il a été interpellé ces dernières semaines. Moi, j'avais connaissance que d'un fait qui a eu lieu il y a 8 jours pour un vol avec violence, vol aggravé, hein, et donc qui n'avait pas permis à la justice une incarcération.
Bon, c'est un sujet très délicat parce que vous avez un drame important. Et que la famille souhaite qu'il n'y ait pas de récupération ou d'instrumentalisation. En même temps, M. Averrousse ne parle pas d'immigration. Il cible en disant que c'est un problème de mineurs et d'ensauvagement.
Il n'y aura pas de récupération, mais c'est notre devoir quand même d'avoir un regard sur ce qui est devenu, et on le dit assez souvent, un fait de société. Faut-il rappeler le meurtre de la petite Lola? Faut-il rappeler
Georges Fenech.
Tout ce qui a endeuillé notre pays et qui est directement lié à l'immigration. On ne peut pas continuer à nier cette réalité. Et ça n'est pas faire injure ou peine à son père qui est admirable et qu'on respecte et dont on partage la douleur, si tant est que ce soit possible, que de faire cette analyse, parce que c'est notre devoir de le faire. De même que les politiques doivent en tirer des conséquences et revoir cette ordonnance de 2021, réformée en 2021, qui a, je vous l'ai dit hier, Pascal, désarmé la lutte contre la délinquance des mineurs. Donc ça, c'est notre rôle que d'avoir ce regard.
Alors, comme c'est notre rôle aussi de souligner qu'il y a un vocabulaire qui est employé à chaque fois, il n'y a rien à faire, et qui est un vocabulaire, à mon sens,
Joseph
inapproprié. C'est-à-dire le mot « rix », pour moi, est inapproprié. Et il tourne en rond et en permanence, il a été repris. Et ça, c'est juste pas possible.
C'est la même chose sur Crépol.
C'est la même chose qu'au Crépol. Gauthier a raison.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur le droit d'asile, tel qu'il est fait en France, voir comment ça se passe à l'OFPRA, voir qui sont ces Afghans qui viennent sur le territoire de France?
C'est la première nationalité pour les demandes d'asile, les Afghans. Et après, c'est impossible de les expulser parce que vous n'avez pas expulsé vers l'Afghanistan. Les talibans ne vont pas vous donner des laissez-passer consulaires. Donc,
quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Qui, pas seulement à mon avis, arrive en France. Néanmoins, quand il s'est passé ce qui vient de se passer, je pense que le père, moi je partage tous ici sa tristesse et son appel au calme. Je pense qu'il vise Ebardella et Marion Maréchal qui se sont peut-être, chacun jugera, un peu précipités pour faire une vidéo pour dénoncer ce qui s'est passé. En même temps,
c'est leur rôle.
Je pense que oui, absolument, c'est leur rôle.
C'est le rôle du...
Et en même temps, je pense pas qu'on puisse faire le moindre reproche aux journalistes ou au journalisme, parce que si véritablement on ne parle pas d'un événement tragique comme celui-là, on sert à quoi? Donc, il faut relativiser. Moi, je comprends parfaitement les paroles et l'appel au calme du père, qui mérite vraiment notre solidarité et notre sympathie. En même temps, ça témoigne tout de même d'une politique de l'immigration qui est totalement hors de contrôle, et on n'a pas fini de payer la facture.
Alors, Gilles Avrous nous regarde manifestement, et il vient de m'envoyer un texto, et il m'a donné l'autorisation de le citer. Je lui ai proposé d'ailleurs de réagir, et il n'a pas souhaité. Il m'a dit « je ne réagirai pas avant les obsèques », ce qu'on peut comprendre. Il dit « pour être clair sur le sujet de l'immigration, ce n'est pas du tout un tabou pour moi. Je le dis, on a un problème avec l'immigration en France. Je l'ai publiquement et nationalement dénoncé fin 2021 quand un vendredi soir, l'État m'a annoncé m'adresser un quart de migrants le lendemain, samedi matin, dont des Afghans qui finalement ne sont pas restés et sont repartis pour par eux-mêmes à Paris dans les 48 heures. Les maires ne sont jamais associés et très rarement informés. Et pourtant, ce sont eux que tout le monde, ce sont sur eux que tout le monde tape du matin au soir. Hier matin, la maire donc me demande par SMS 5 minutes avant le début de la conférence de presse de ne pas aborder ce sujet. La maire de Matisse. Donc effectivement. Je comprends, monsieur Avrous. Par respect pour les parents qui ont perdu un fils 36 heures plus tôt, alors même que l'enquête n'était pas terminée, que les obsèques n'ont pas eu lieu, je ne pouvais pas ne pas respecter leur volonté. C'est la mort de leur fils. Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a intérêt à communiquer, à parler dans ces cas-là. Donc, je cite intégralement le texto de monsieur Avrous qu'il vient de m'envoyer à l'instant.
Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, même sur une trentaine, c'était le maire d'Orléans. Serge Grouard qui disait « J'ai vu arriver des Afghans, personne ne m'a prévenu. Les hôtels sont pleins, je ne sais pas comment faire. » Donc, si vous voulez, les maires sont devant une situation, devant un fait accompli qui leur est imposé par l'État.
Sarah Salman.
Il y a un problème migratoire, et ça c'est incontesté, incontestable, mais il y a aussi la justice pénale des mineurs. La personne était déjà connue des services de police, et il n'a pas été, en tout cas, il était en liberté sous contrôle judiciaire. Je le rappelle, la détention provisoire, c'est l'exception. Et la détention provisoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans n'est possible que dans deux cas, en matière criminelle et en cas d'irrespect du contrôle judiciaire. On pourrait éventuellement s'interroger, est-ce qu'il ne faudrait pas, peut-être, c'est une question, réformer cela. Parce qu'au-dessus de 16 ans, il y a plus de choses. On peut lever l'excuse de minorité, même si en pratique, ça ne se fait quasiment jamais. Et les conditions de détention provisoire sont un petit peu plus larges. Donc pourquoi cette personne n'a pas été mieux suivie? Et je crois qu'il y a une frilosité à la sanction, que ce soit d'ailleurs à Sciences Po, pour les mineurs et pour les majeurs.
Non, mais ce que vous dites, Sarah, c'est existé avant 2021.
Oui, bien sûr.
C'est cette majorité qui a
empêcher un juge de pouvoir placer en détention provisoire ce jeune. D'ailleurs, la procureure l'a dit dans son communiqué. Bah oui. On ne pouvait pas.
Et je rappelle évidemment. Donc,
la question, c'est est-ce qu'il faudrait éventuellement réformer cela?
Mais ça existait avant. Vous ne les avez pas demandé à ceux qui ont réformé de re-réformer ce qu'ils ont fait.
Et je rappelle évidemment, puisque je l'ai cité, que Gilles Avrousse est le maire de Châteaurousse.
Oui. Et un bon maire.
Oui, mais je l'ai dit, il a été réélu avec 70%, ex-UMP aujourd'hui d'hiver droite.
Il a fait un travail considérable.
Écoutons Manuel Valls qui, lui, hier était chez Sonia Mabrouk sur une position très ferme sur ce sujet.
La direction s'est engagée à un débat qui porte sur les revendications de ces étudiants qui ont bloqué l'Institut et notamment sur la suspension du partenariat de l'école, j'ouvre les guillemets, avec les universités et les...
Vous avez compris effectivement que Manuel Valls s'exprimait sur Sciences Po, dont on va parler d'ailleurs dans une seconde, et non pas sur Châteauroux. Et je le dis pour Marine Lançon, c'est un passage que nous avons écouté hier soir dans l'émission L'Heure des Pros. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, puisque...
Est-ce qu'il est vrai que le garde des Sceaux est opposé, assez fermement opposé, à ce que l'on touche à l'ordonnance des mineurs?
L'ordonnance des mineurs, elle fait partie du code de la justice pénale des mineurs de 2020.
Mais il vient de la réformer.
En substance.
Avec les deux, je ne peux pas le dire autrement.
Il vient de le réformer.
Il l'a réformé il y a quelques mois. Mais est-ce qu'on change d'avis ou est-ce qu'on change pas d'avis vu l'amoncellement?
Le changement de logiciel, ce sont des gens.
Je ne pas leur demander de changer de logiciel.
Ah ben non.
Alors, il faut changer de personne.
Voilà. Eh ben oui, peut-être. Oui,
je suis désolé de vous
dire. Sur l'excuse de minorité, je pense que ça remonte à plus haut qu'Éric Dupond-Moretti. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal et Emmanuel Macron soient pour la lever.
C'est bien possible. Mais vous arrivez aujourd'hui, quand on dit qu'il faut changer de logiciel, c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un an, le nombre, combien on a changé d'une certaine manière de paradigme sur ces sujets-là. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a un an. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer, en fait. Ça ne peut pas continuer.
Vous ne pouvez pas demander à un homme politique
de
changer de conviction comme on change de logiciel, ce n'est pas possible.
Oh, ça ne serait pas le premier, Jean Chénec, excusez-moi. Je veux dire, des gens qui changent de conviction et qui retournent leur veste, c'est même
des monnaies courantes. Sur la répartition, parce que ça a été théorisé par Emmanuel Macron lors d'un discours devant les préfets, la répartition des migrants, évidemment, ça s'est accéléré avec les JO. Et puis au moment des émeutes, il nous avait fait la répartition des difficultés aussi sur l'ensemble du territoire.
Je vous dis sans arrêt que c'est les villes moyennes qui sont le plus touchées. Curieusement et paradoxalement, Paris est protégé. Il y a des quartiers à Paris qui sont incroyablement sécures. Mais dans les villes de province où, par définition, c'est plus petit, il y a regroupement parfois dans certains, comme dans des gares, comme dans des endroits, ce qui fait que à Nantes, à Rennes, à Bordeaux, les gens n'osent même plus sortir le soir.
Allez à la gare du Nord, vous allez voir comme Paris est touché. Hein. Vous avez tout.
Mais
le crack, la délinquance...
J'entends bien, mais
il y a certains arrondissements qui sont à l'abri.
C'est ça que je veux dire.
Oui.
Alors qu'en province... Aucun quartier n'est à l'abri. Alors qu'à Paris, certains quartiers le sont.
La preuve, Saint-Denis, à Châteauroux, c'est un quartier qui était calme. Hein, tout le monde le dit.
Manuel Valls, que je vous annonçais, écoutons-le. Et après, nous parlerons de Sciences Po.
Les homicides et les tentatives d'homicide augmentent depuis quelques années. Donc ce ne sont pas des faits divers, ce sont en effet des faits de société qui disent beaucoup sur la violence. Donc cela pose des questions sur la manière dont il faut agir, évidemment sur l'immigration, évidemment sur les mineurs non accompagnés, c'est à la fois des réponses françaises et européennes, et puis aussi sur une réforme profonde de la réforme des mineurs, en s'attaquant à la question de l'excuse de l'âge, sans doute en inversant la preuve de celle-ci, puisque un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite.
C'est formidable ce que dit Emmanuel Valls. Le problème, c'est qu'il a été Premier ministre.
Moi, j'aurais
envie que lorsqu'il était Premier ministre, il mette en place ce qu'il dit aujourd'hui. Alors, on lui dira que ce n'était pas la même solution.
Il est d'abord connu comme ministre de l'Intérieur, excellent ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Et il est rentré en confrontation vraiment directe, frontale, avec Christiane Taubira, qui était, elle, garde des Sceaux. Il s'en était plaint, j'ai la lettre, il s'en était plaint au président de la République. Il dit, c'est pas possible. On peut pas cautionner cette politique judiciaire qui va à l'encontre, finalement, de ce que fait la police sur le terrain. C'était quoi? Madame Taubira avait supprimé les peines planchers. Elle avait supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Elle avait arrêté la construction de places de prison. Ce qui fait que, aujourd'hui, Manuel Valls vient nous dire tout cela. Mais à l'époque où il était au pouvoir, il en a été empêché, en réalité.
Ah, attendez. Il y a juste une circulaire. qui prend, qui empêche l'expulsion de la famille de celui qui tuera Dominique Bernard à Arras. Hein. C'était une circulaire de Manuel Valls. Hein.
Il y a deux ou trois mesures d'urgence à prendre. La première, c'est peut-être aucune régularisation sur le sol de France. Deuxièmement, le regroupement familial, c'est fini.
On régularise à tour de bras.
Oui, mais le regroupement familial. Je crains que tu ne sois pas écouté.
Mais le regroupement familial, c'est terminé.
Élargi par le président de la République, si j'ai bonne mémoire.
Et ben ça, c'est une mesure.
Alors ça, au début.
Vraiment, faut le faire immédiatement.
Qui avait institué le regroupement familial?
Immigration.
Qui avait institué?
Mais c'est le Conseil d'État. Oui, c'est même pas Giscard.
Ouais, si c'est lui.
Mais non.
Si c'est lui.
Mais non.
Mais je connais les éléments de langage.
Parce qu'au moins la suspension de l'immigration.
Mais je vais vous dire.
Déjà une bonne nouvelle.
À la limite, quand 76 ou 77, Giscard n'est pas vu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais arrêtez de faire le procès à Giscard. On est en 77. La situation n'a rien à voir. C'était il y a 50 ans.
Oui,
enfin, Joseph.
Il y a l'Europe. C'est tellement plus facile ensuite.
Je vous dis aujourd'hui, il faut l'arrêter. Immigration.
Au moins la suspension.
Pourquoi pas?
Au moins la suspension.
Ça représente 10 ou 15% de l'immigration, l'immigration au travail. Et c'est pas celle qui pose de problème parce que les gens bossent.
Alors il faut quitter la Convention européenne.
Allez. Sciences Po.
Il faut arrêter avec la Convention européenne des droits de l'homme.
Mais
on peut pas le faire, ça.
Eh bien alors continuons, faisons rien. Et puis voilà,
on le craint, mais
vous m'expliquez toujours, faut rien faire.
Il y a un préalable, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le regroupement familial.
Écoutez, on va parler de Sciences Po. Quand tu discutes avec Matignon, ce qui nous arrive, les gens te disent, bah oui, vous avez complètement raison, mais on peut rien faire. Donc on peut rien faire en rien.
On peut rien faire. Il faut renégocier.
On peut rien faire en rien, dans aucun domaine.
Il faut renégocier.
On parle de Sciences Po. Madame Retailleau.
Sur le regroupement familial.
Sciences Po.
Les pays européens ont une politique différente.
Oui. Madame Retailleau.
Très différente.
Madame Retailleau. On va écouter Madame Retailleau. Je vous assure, je m'interroge quand même sur. Il n'y a personne d'autre que Madame Retailleau pour représenter l'université en France, sérieusement. Et l'enseignement supérieur. Je vous assure, je ne veux pas être désagréable avec cette dame, mais il n'y a personne d'autre en France qu'elle. Parce que, d'abord, je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Elle s'exprime, c'est pour le moins confus, et elle change d'une ligne d'un jour à l'autre. Donc l'université française, c'est elle qui la représente.
Et elle n'est pas très soutenue, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon.
Elle est un peu scolaire dans son expression.
Mais tu te dis, pardonnez-moi cette expression triviale, mais ils vont les chercher où? Je vous assure, l'université française, c'est Madame Retailleau. Alors, elle était ce matin aux Quatre Vérités. Écoutons-la, puisque maintenant, elle fait ma marche arrière.
La communication interne qu'il y a eu n'est pas une bonne communication interne. Et c'est ça qui a posé la polémique. Et c'est normal, puisque cette communication interne a laissé croire qu'il y avait, vous l'avez dit, abandon de sanctions. Et je voudrais dire que c'est faux et que ça, je ne l'accepterai jamais. Et d'autre part, qu'il y avait une discussion où l'institution pourrait se positionner vis-à-vis du conflit et pourrait se positionner en particulier sur les partenariats. Là aussi, c'est faux. Il n'y aura aucun positionnement de l'institution comme d'aucune institution publique et il n'y aura aucun abandon ou boycott des relations avec les académiques d'Israël. Ça, je voudrais le dire
haut et fort. Donc ça, c'est clair et net.
Et la direction de Sciences Po est alignée sur cette position.
Et c'est un.
Donc il y a sanction ou il n'y a pas de sanction?
Je ne comprends rien. Mais c'est un.
Elle dit exactement l'inverse. Enfin, le rétropédale, grandeur nature, c'est presque lunaire là.
Bon, enfin. Elle se félicitait du communiqué de Sciences Po qui disait bien que les sanctions étaient levées pour.
C'est insensé qu'elle soit encore en place. En fait, c'est insensé. Je ne peux pas vous dire autre chose. Voyez le tweet qu'elle avait fait, qui illustre d'ailleurs le pas de vague, comme toujours. De Sciences Po. Vous l'avez évidemment. Alors, je rappelle pour ceux qui arrivent à l'instant que Pierre Alexandre est étudiant à Sciences Po, que c'est intéressant d'entendre un élève n'est pas dans la minorité active et qui a simplement envie de bosser.
C'est ça, c'est exactement ça. Et là, on parlait de ce communiqué. Ce communiqué, en fait, on l'a pris avec sidération. On avait honte de ce communiqué. En fait, le deal qui a été passé avec cette minorité, c'est un peu comme si vous aviez un magistrat du parquet qui abandonnait toutes les poursuites avec un individu, avec un criminel, parce que celui-ci promettrait de ne pas recommencer sous les deux semaines. C'est exactement ça, en fait. Et du coup, c'est l'impunité totale. Mais ça fait partie de la culture du pas de vague qui s'installe à Sciences Po déjà depuis des années. Et en fait, on est complètement abandonné par les pouvoirs publics. Et le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que Sciences Po, c'est pas ça. Sciences Po, c'est des étudiants qui veulent travailler. Sciences Po, c'est des professeurs formidables. Sciences Po, c'est un horizon pour plein d'étudiants qui rêvent d'accéder à cette école pour une émancipation intellectuelle. Et aujourd'hui, l'image qui est renvoyée par ce genre de communiqué ou par l'abandon des pouvoirs publics est une honte.
On va voir le tweet de Madame Retailleau. Est-ce qu'elle avait écrit « Je remercie Monsieur Jean Bassère pour son action à Sciences Po qui doit rester un lieu d'études, de respect et de demain. Honte à ceux qui instrumentalisent les patients. Libération les cynismes.
C'était pour la France Insoumise.
Voilà, leur cynisme les avait. Alors, comme elle remerciait M. Bassère, dans son communiqué, avait dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. Donc, on le revoit, on peut le revoir, je ne l'invente pas. Ouais. Je le remercie pour son action, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Ils se sont couchés, tout le monde les a critiqués, maintenant ils rétropédalent.
Si Gabriel Attal, qui était allé à Sciences Po pour bander les muscles, si Gabriel Attal est sérieux, il vire l'administrateur provisoire, il met un préfet, préfet allemand, pourquoi pas. Ça serait voilà, un homme de poigne, et il vire la ministre de l'enseignement supérieur. Voilà.
Alors là, je crois que c'est plus au niveau de Gabriel Attal. Hein. C'est à l'Élysée, et à l'Élysée, on réfléchit comment répondre, et on dit qu'Emmanuel Macron va prendre la parole bientôt.
Emmanuel Macron va prendre la parole pour parler de
Sciences Po. Il serait peut-être temps, oui.
Non, mais sérieusement, c'est Emmanuel Macron qui va prendre la parole.
Ah, le dossier est remonté jusqu'à l'Élysée, oui, bien sûr.
Sur Sciences Po, bien sûr. Emmanuel Macron,
sur Sciences Po, le dossier est sur le bureau du président de la République, et il trouve ça catastrophique.
Il n'y a plus de ministre de
l'Élysée.
Si Attal a un problème, c'est justement d'essayer de ne pas être le cavalier du président de la République. C'est mal parti. Il faut qu'il prenne son indépendance et annonce un certain nombre de décisions qui apparaissent comme étant les siennes.
Thomas Hill.
Oui, je suis là.
Tous les jours, nous lui disons bonjour, si j'ose dire.
Bonjour Pascal.
Tous les jours, vous allez bien, Thomas Hill?
Toujours un plaisir de vous voir.
Belle et grande maison de repas. Vous savez que c'est une filiation qu'il y a un peu avec Monsieur Dacier, qui était dans les années 70 à Europe 1.
C'est vrai. Je le salue.
Parfait, quelle date vous parlez, là?
Dans les années 70. On a parlé des capitaines portugais hier. Vous aviez été surnommés les capitaines portugais. Sacco Mano qui vous avait surnommé comme ça, avec Étienne Bougeot et quelques-uns. Merci.
À tout à l'heure, Pascal.
Je ne vous demande pas le programme.
Ah non, on n'a pas le droit, vous le savez.
Ah oui, on n'a pas le droit. Bon, alors si on n'a pas le droit,
le jingle,
on
ne
vous
le
écoute pas. On n'a pas le droit. D'ailleurs, mais on vous souhaite quand même bonne émission.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Eh oui, l'ARCOM nous surveille de 9h30 à 11h. C'est Culture Média qui débarque. Et avec ce matin, un jeune animateur qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Jordan Deluxe. Et puis, c'est ensuite une philosophe à succès, Claire Marin, qui nous rejoindra tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les trois brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détail en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves aux Pays-Bas.
Oui. Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 9h31 sur Europe 1, juste avant Culture Média, le journal permanent avec Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le produit intérieur brut de la France en progression de 0,2% au premier trimestre 2024 selon l'INSEE, le signe d'une solidité selon le ministre de l'Économie. Faut-il interdire les écrans à nos enfants? Les scientifiques disent oui. Un collège d'experts remet aujourd'hui au gouvernement un rapport qui recommande d'interdire les écrans avant 3 ans, les smartphones avant 11 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet de renforcer la sécurité devant les églises chrétiennes pour l'Ascension le 9 mai et la Pentecôte le 19 mai au vu du contexte international et du risque d'attentats terroristes très élevé. À Châteauroux, le tueur présumé de Matisse, 15 ans, mort poignardé samedi, mis en examen et écroué depuis hier. La mère de l'agresseur est également mise en examen pour violence volontaire. Elle aurait donné des gifles à la victime. Mathilde Panot et Rima Hassan de la France Insoumise entendue par la police ce matin, accusée d'apologie du terrorisme, notamment pour la publication d'un communiqué après les massacres du 7 octobre en Israël. Et puis du football à suivre ce soir, les demi-finales aller de la Ligue des Champions. 21h, le Bayern de Munich reçoit le Real Madrid et demain soir, 21h également, le PSG affrontera le Borussia Dortmund. Vous écoutez Europe 1, tout de suite Culture Média.
Merci beaucoup Nina et prochain point sur l'actualité à 10h sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média et bonjour à la chorale de cette émission, une chorale de trois personnes qui chantent chaque jour les deux mêmes mots. Bonjour Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
C'est beau, hein, c'est beau. On a beaucoup de choses au programme ce matin puisque déjà nous avons le plaisir de recevoir un animateur qui à 34 ans sort son autobiographie. Oui, c'est jeune, mais vous verrez qu'il a déjà pas mal de choses à raconter. Bonjour Jordan Deluxe.
Bonjour Thomas Isle.
Merci beaucoup d'être avec nous, Jordan. Et puis, sans transition, on parlera philosophie avec Claire Marin. C'est l'un des plus grands succès du moment en librairie. Alors, qu'est-ce que la philosophie intime qu'elle propose? On y répondra tout à l'heure. Et puis, on finira l'émission avec le chanteur Hervé. On se laisse bien du mal, on fait si bien. On se laisse bien du mal. Hervé qui revient avec un nouveau titre qui nous fera découvrir en live tout à l'heure. Voilà pour le programme du jour, on est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne.
Oh merde.
Alors, merci,
bon courage,
ça fait
plaisir.
Jordan. Et alors, ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Jordan Deluxe, que vous appréciez beaucoup, je crois. Hein. On démarre toujours gentil ici.
Ah, bah oui, quand même, je suis pas un ingrat. Hein. C'est quand même quelqu'un qui alimente pas mal cette rubrique.
Oui.
Franchement.
Oui, c'est vrai.
Non, mais Jordan, c'est un homme qui a inventé un nouveau métier. L'intervieweur, inspecteur des impôts. Sa passion, c'est les salaires et les retraites.
C'est vrai.
Là, Passepartout et Benjamin Castaldi. J'ai pris les deux pour l'exemple.
Oh non, il a pris les pires.
Non, bien sûr. Mais c'est vraiment pour l'exemple parce que rassurez-vous, il a évidemment l'avis d'imposition de tous ses invités.
Par exemple, je peux vous demander votre salaire à la RATP? C'est quoi, dans les 3 000 euros, quelque chose comme ça?
Ouais.
Dans les 4 000 euros, plus?
Ah non, plus.
Dans les 8 000 euros de retraite, à peu près?
Je vais être bien, je vais être bien.
Dans les 10 000, pas 10 000?
Bien, je vous dirai pas, mais je vais être bien.
On est dans ces eaux-là, quoi.
Je vais être bien, non, je vais être bien.
Il me connaît, il sait très bien qu'il ne peut pas répondre à cette question.
Voilà, vous avez entendu? Là, il est content, limite une petite pollution. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont fétichistes des pieds, lui, il est fétichiste des salaires.
C'est son truc.
Ça excite un petit peu.
C'est terrible, là.
Jordan a une particularité, quand il a une petite émotion, il part dans les aigus.
Surtout jeune, à 18 ans, j'étais très exhibitionniste.
D'accord, ok, ben on va passer aux questions cash, c'est parti.
Voilà. Nous, les garçons à l'adolescence, on mue. Jordan, quand il est content, il démue. Ou sinon, c'est autre chose. J'ai remarqué que ça arrivait souvent au moment des questions cash.
C'est quoi les questions cash?
C'est maintenant, quand on s'appelle Jackie du Club Dorothée.
Jordan, à mon avis, vous l'avez trop chaud. Et votre pantalon vous sert beaucoup trop. Jordan, c'est 5 entrevues d'une heure par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du boulot. Ah, donc si, évidemment, si. Parfois, hein, à la 5e cliente, c'est plus compliqué.
Ah, oui.
Là, c'était l'ancienne Miss France, Valérie Pascal.
Pourtant, il y en a un qui a des mauvais souvenirs avec vous, chère Patricia Pascal. Oui,
non, moi c'est Valérie.
Valérie Pascal, pardon.
Oh, Patricia, oh. Valérie, c'est pareil.
Des faits à la suite, des fois je les confonds.
C'est ça. Et puis elles se ressemblent toutes. Passepartout, vous le recevez plus souvent, donc vous maîtrisiez mieux. Oui, vous lui avez parlé de sa taille.
Et évidemment, en premier, c'est la taille. Bon, on va le dire, cher André. Alors, c'est 1m20, c'est ça, je crois?
1m34.
1m34, pardon, excusez-moi, j'avais vu 1m20.
Ouais, chipoté pour 14 cm, c'est petit.
C'est un monstre, c'est pas possible.
Non, j'ai perdu sur le ménage, Jordan, parce que je sens que c'est le gros bordel dans vos fiches.
Aya Nakamura.
Oui.
Qui va faire Edith Piaf.
Oui.
Pour l'Eurovision. Ah oui, non, mais c'est vrai.
Et Slimane, il va faire le 100 mètres, du coup.
Ouais. En face, oui.
Ça. Le style et Jordan, c'est un mélange de candeur et de maladresse. Là, Valérie Pascal nous parlait de son titre de Miss France.
C'était quand même il y a quelques petites années.
Quelques petites années. 1986.
Exactement.
Exactement, je t'ai pas né.
Merci. Ça fait plaisir, ça c'est vraiment...
Voilà, ça c'est Jordan. Il apporte une précision, au final, et ça fait un scud en pleine face. Elisabeth Lévy parlait de son âge.
Je commence à me faire avoir quelques heures de vol.
Les heures de vol, on y est. Allez, on y va. C'est parti. C'est vous qui le dites, heures de vol. Parce que moi, j'ai votre date de naissance. Ça va, tout va bien pour l'instant.
Le pour l'instant était de trop. Si je peux me permettre, c'était de trop.
C'est horrible, je me rends compte à quel point, mais c'est horrible.
C'est bien de s'en rendre compte.
Il faut que je fasse du montage sur ce programme, c'est pas bien.
Non, c'est pas bien. Vraiment, ne changez rien. Mais t'as intérêt à avoir un bon moral quand tu viens chez Jordan, sinon tu te jettes sur le périph' en sortant. Parce que même quand il veut faire plaisir, on n'est jamais loin de la gaffe. Là, Jordan voulait expliquer le succès des disques de Francky Vincent.
Ça passe beaucoup en soirée.
Et les jeunes adorent ça.
Adorent, ils aiment aussi, c'est vrai. Dès qu'ils ont picolé un petit coup...
Voilà, à 3 grammes, Francky Vincent, c'est Jacques Brel. Le style Jordan, c'est aussi de mettre les pieds dans le plat. C'est par exemple parler à Magali Vallée des attaques sur son poids. Alors le problème, si je peux me permettre, Jordan, ce sont les enchaînements. Là, il rappelait à Magali une blague de très mauvais goût qu'avait fait Coé au moment de son accouchement.
On connaît Coé. À l'époque, il était beaucoup à la radio et il a voulu faire une vanne sur mon accouchement et Magali Vallée a accouché d'un veau.
Il a dit ça ? Vous avez eu des périodes de vache maigre ?
Il y a eu du montage.
Mais quel salaud ! Mais quelle ordure !
Est-ce que cet enchaînement était le meilleur, Jordan ? Je ne suis pas sûr.
Vous êtes un monstre.
C'est pas moi qui pose des questions. Vous avez aussi osé demander à Passepartout ce qui est fait avec sa femme quand il lui a fait visiter Fort Boyard.
Est-ce que vous avez fait un câlin sur le Fort Boyard ? Ah, dites-moi que oui. Vous avez pas fait un câlin dans une cellule ?
Ça nous est passé par la tête.
Oh, t'imagines en faire un câlin à Fort Boyard ? T'es dans ta ou ton partenaire, il y a un gros lourd qui tape à la porte. Sors, t'as plus le temps.
C'est la boule.
Et enfin, ce que j'aime bien justement chez Jordan, c'est que vous trichez pas. Vous pourriez faire du montage pour vous rendre plus brillant comme tout le monde, hein, tout le monde le fait. Mais non, vous laissez l'enregistrement tel quel. Comme quand vous aviez fait un parallèle entre la femme de Passepartout et le mari de Mimi Mati. Et on avait appris un truc très étonnant.
On enchaîne avec une personne. Ouais. Elle s'appelle Mimi Mati. Oh là là, vous avez fait couler beaucoup d'encre. Elle est avec son mari. Vous aussi, vous êtes très bien avec votre femme.
Merci.
Patricia, on en parlera tout à l'heure. Qui est une femme de taille normale. Ouais. Et son mari est une femme de taille normale.
Voilà, son mari est une femme de taille normale.
Mais non, mais parce que Passepartout a eu des enfants avec une femme de petite taille. C'est pour ça que je lui disais ça. Et il l'a révélé dans l'émission.
C'est ça. Et le mari de Mimi Mati est une femme de taille normale. Comme nous tous. Hein. Et c'est pour ça que j'ai regardé Jordan.
Oh là là, bravo, bravo Jean-Luc. C'est une belle mise en valeur de votre travail.
Il m'a planté, ça se trouve, je vais faire deux d'audience demain.
Mais non, au contraire.
Mais non, les gens vont venir voir.
Vous faites jamais de montage, c'est vrai, dans votre émission
oh, très peu. Après, très j'ai peu, pas hein. le temps parce que j'en tourne tellement. Puis vous savez, faut pas que ça coûte cher. Donc on y va, débite.
Bon, oui.
On va isoler ça.
Ça va être monté, ça.
Encore ? Mais c'est pas possible.
Merci Jean-Luc, on retrouve demain d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez donc le journaliste Jordan Deluxe. On va parler de son livre Confession, à quoi tu sers, paru aux éditions Le Duc. À tout de suite.
Culture Média,
9h30, 11h sur Europe 1. On en parle.
Reconnaître les signaux d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour améliorer sa détection et sa prise en charge. On en parle avec Isabelle qui est atteinte d'insuffisance cardiaque.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Eh oui, et issu de la pêche durable. Hein.
Ça peut plus durer.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-Or réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps, à découvrir dès maintenant au musée Guimet, avec Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas. Il est votre invité ce matin, Thomas.
Mais oui, je reçois ce matin Jordan Guinel, dit Jordan de luxe. Vous racontez d'ailleurs dans votre autobio d'où vient ce nom. Et il n'y a rien de très luxueux là-dedans.
Non, c'est vrai, parce qu'à la base, moi, je suis un petit breton qui vient de Rennes, une petite ville qui s'appelle Romier. Et à la base, Jordan Guinel, c'est vrai qu'on me disait toujours quand j'étais petit Guinel Guignol, et c'est un truc qui m'a vite énervé. Ouais. Et il y a eu, c'est vrai, une période de souffrance avec notamment la période de harcèlement qu'on connaît tous et toutes avec tout ce qui se passe actuellement. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai décidé de changer de nom. Déjà, pour protéger mes parents, je me suis dit, si jamais je deviens une personnalité, peut-être un jour, j'ai pas envie que quand on tape mon nom de famille, on tombe sur mes parents, ce qui maintenant sera chose faite grâce à vous, Thomas Isle, puisque vous venez de donner mon nom de famille.
C'est dans votre autobio.
Oui.
Vous le racontez. Et alors, le Jordan Deluxe, ça vient du McDo, en fait.
Mais oui, exactement. C'est parce qu'en fait, il fallait trouver un nom. D'abord, à l'époque, j'étais sur une radio qui s'appelle. Voilà, on va pas donner le nom, tiens. Ouais. Et puis, donc, cette radio-là me dit on commence dès demain, on lance un contrat. Et moi, j'ai dit non, mais moi, je veux pas m'appeler. À la base, c'était Voltage Man. Du coup, c'était un nom un peu emprunté de la radio. J'ai dit non, mais moi, je veux pas m'appeler comme ça. Je veux un vrai prénom, un vrai nom.
Ouais.
Et là, il me reste une nuit pour choisir. Je vais avec une amie dans un grand fast-food que vous connaissez. Voilà. Toutes et toutes, n'est-ce pas?
Avec un clown?
Oui, avec un petit clown qui donne des bonnes choses à manger. Et donc, du coup, on rentre à l'intérieur avec une copine. Et là, il y a une dame qui arrive. Elle me fait, voici. Alors là, ça, c'est le Big Mac. Et puis là, c'est le Royal Deluxe. Il est exceptionnel. Et puis, elle me le sert comme si c'était un mets. Je pense qu'elle avait faisait un peu de théâtre. Elle me dit, il est génial. Il est pas cher. Il est populaire. Et puis, il restera toujours à la carte. Je dis, non, ça, c'est pas mal. Pas cher, populaire, à la carte. Je dis, moi, ça me plaît bien, ça. Deluxe. Je dis, je vais mettre une particule. Et après, j'ai été le lendemain sur ma radio, et j'ai dit, écoute, je m'appellerai Jordan Deluxe à partir de demain. Et puis j'ai mis le nœud papillon parce que Geneviève de Fontenay m'avait dit, Jordan, ce serait bien que tu aies un petit truc en plus. Et elle avait un chapeau blanc. J'adorais ce côté personnage.
C'est une très bonne idée de marketing personnel. En
fait, ouais,
le coup du nœud papillon.
Oui, c'est vrai qu'au début, personne ne. Voilà, ça allait trop qui j'étais. Donc à chaque fois, il disait, c'est le mec qui a le nœud papillon.
Ouais.
Et donc, du coup, ça me permettait.
Et alors, ce livre, cette autobiographie à seulement 33 ans, c'est l'histoire d'un gamin qui a pas mal morflé à l'école, vous l'avez dit, et qui, pour enfin être considéré rêve de faire la télé, rêve de devenir Faugiel, Ardisson, c'était ça vos rêves, Guérin?
Parce que je regardais ça à la télé et je me disais, ils sont bien là-bas. Vous savez, quand vous êtes très mal dans une période très compliquée où tout va mal à l'école, où vous n'avez pas du tout envie d'y aller, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est rentrer à la maison. Quand vous arrivez chez vous le soir, il faut vous trouver un truc pour vous réfugier. Et en l'occurrence, moi, c'était à travers la télé. Donc je regardais les émissions, je regardais tout ce qui était les petits clashs. Je me rappelle, Morandini, il avait sa petite émission. Donc j'adorais regarder ça le soir. Faugiel aussi, c'était génial. Et puis Mireille Dumas, notamment, avec Les Vies. Et je me disais, je me suis trouvé un nouveau truc là-dedans, quoi. J'ai réussi à. Voilà. Je pense que c'est vraiment très important pour tous les enfants qui nous écoutent, là, actuellement, qui écoutent Europe 1. Si vous sentez harcelé, si ça va pas, et même pour quelqu'un qui va pas, trouvez-vous un truc, qu'importe, le sport, je sais pas, moi, la nouvelle femme de Monsieur Pichenet, n'importe quoi. Mais trouvez un axe qui vous plaît. Ouais. Quelque chose qui vous dit, qui vous fait, qui vous transcende. Pour vous permettre d'avancer et puis parce d'oublier tout ce qui va pas.
Vous racontez effectivement cette période de harcèlement au lycée. Vous racontez aussi que 25 ans plus tard, vous avez subi un autre épisode de harcèlement, mais cette fois de la part d'un animateur télé.
Ouais, ça m'est arrivé,
dont vous ne donnez pas le nom d'ailleurs.
Non, parce que le problème, c'est que je me suis beaucoup livré dans le livre. Ouais. Je pense même un peu trop. Je pensais pas en donner autant. Mais une fois que c'est écrit, tu te dis c'est bon, c'est écrit. Mais après, le problème, c'est que les journalistes, ils repèrent les bons moments. Oui. Et donc, du coup, toi, tu te retrouves des fois pris à ton propre jeu. Mais c'est pas grave. En effet, ça m'est arrivé. Il y a pas très très longtemps encore, un animateur qui n'avait pas apprécié que je parle de lui sur l'antenne que très peu de temps, et donc du coup c'est parti en cacahuète totale. Mais c'est des messages tous les jours, puis une personnalité vraiment qu'on connaît tous et toutes. Donc du coup, il y a un moment, je me suis dit, mais ça va mal tourner, quoi. Puis ça a viré aux menaces et tout. Donc du coup, on a décidé de. Enfin, là, j'étais obligé de carrément bloquer la personne, quoi.
Et alors, c'est évidemment le passage qui a intéressé tous les médias qui vous ont invité ces derniers jours. Vous ne donnez pas le nom non plus de l'acteur qui vous a fait boire une drogue pour abuser de vous, pour vous violer. Mais vous le saviez en écrivant que ça ferait beaucoup parler ça, Jordan Deluxe.
C'est-à-dire qu'on l'a écrit à la fin avec les éditions Le Duc parce que le livre était terminé et puis ils me disent mais Jordan, t'as tout dit, il y a pas un truc qui s'est passé dans ta vie, et j'y avais évidemment ça en tête et je me suis dit de toute façon, je me suis dit il faut que je joue carte sur table avec les téléspectateurs parce que je suis là tous les jours à poser des questions. Vous savez, vous avez fait mon émission, Thomas, même si vous refusiez mes invitations depuis quelques semaines, je sais pas pourquoi.
Mais il est débordé.
Débordé. C'est parce que cette matinale est en train d'exploser.
Bien
alors
sûr.
Monsieur à la grosse tête.
Non, c'est pas ça, c'est que je sais que c'est très risqué d'aller chez vous.
Vous avez raison.
On va en parler.
On va revenir. Et donc du coup, ce que je vous disais, disais, c'est que en effet, au début, je me suis dit on n'y va pas. Et puis comme je me fais se confier certaines personnes, des fois sur des sujets douloureux, comme par exemple Fabienne Thibault qui est venue il y a pas très très longtemps parler notamment d'un moment très compliqué, c'était un viol qu'elle avait subi, elle en avait jamais parlé. Et je me suis dit non, mais je suis obligé de jouer carte sur table. Je vais le dire parce qu'un jour ça va sortir dans une interview.
Mais sans aller jusqu'à donner son nom.
Non, parce que je.
Et sans porter plainte.
Et non, sans porter plainte, ouais, je sais. Alors ça peut paraître un petit peu. En fait, l'histoire, c'est que je me suis un peu senti sali de ce truc-là et que j'estime avoir franchi une première étape. Mmh. Mais vraiment, Thomas, c'est pas facile à faire, je vous jure. Parce que vous vous retrouvez dans tous les médias à parler de ça, les souvenirs qui remontent. Moi, j'ai les images à chaque fois qui tournent. Donc, et puis, je voulais pas le dire parce que j'avais peur d'être pris pour un menteur. Donc voilà, de toute façon, si je l'avais dit il y a 15 ans, on m'aurait dit, mais oui, alors lui, c'est parce qu'il veut faire de la télé, donc il raconte ça. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré le dire maintenant, aujourd'hui, que j'ai une petite notoriété avec ce programme. Et voilà, et je trouve que c'était bien parce que le MeToo Garçon, ça n'existe pas trop. Vrai. Et ça existe. Hein,
et ce qui est intéressant chez vous, Jordan Deluxe, c'est que tout ce qu'on vient de raconter, ça vous empêche pas d'avoir pas mal d'assurance et même de culot, parce que vous avez finalement atteint ce qui était votre rêve, d'avoir votre propre émission d'interview. Ça s'appelle Chez Jordan, c'est sur C8. Et c'est vrai que votre marque de fabrique, eh ben, c'est de poser les questions qu'en général on évite de poser sur la vie sexuelle des gens, sur leur salaire. Votre objectif, c'est de faire du buzz, de faire parler.
Alors c'est intéressant ce que vous me dites, parce que le buzz, c'est quoi? Le buzz, c'est quelque chose que quelqu'un dit à un endroit et pas ailleurs, et quelque chose qui intéresse les personnes, ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire ceux qui sont en Bretagne, ceux qui sont dans la France profonde, pas le parisianisme. Mmh. Et en l'occurrence, il est provoqué par des questions qui sont souvent ont un intérêt, en effet, financier ou alors tout ce que vous savez, nous ce qu'on a, c'est les audiences le matin, et ça c'est magnifique parce que vous voyez les courbes. Et donc vous savez ce qui marche. Ouais. Et c'est vrai que moi, avec l'école Jean-Marc Morandini, l'école Cyril Hanouna,
vous voyez que c'est ça qui marche.
Je sais ce qui fonctionne. Ouais. Et dès que ça parle d'argent, c'est pas moi. Les gens, vous voyez, ils regardent, les courbes montent parce qu'ils aiment savoir, ils ont envie de savoir combien gagne Thomas Hill, enfin je sais pas.
Puis il y a surtout beaucoup de reprises sur les réseaux sociaux, oui. Ces moments-là
ça fait parler.
Exactement, ça fait parler, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des moments où des invités pleurent, des invités quittent le plateau. Je me souviens de Sarah Salman.
Mais après, c'est vrai que la difficulté, c'est d'avoir des invités quand on pose ce genre de questions.
Exactement, alors il y en a, ils viennent, il y en a, je les soupçonne de venir, de faire leur coup monter, ça arrive. Ouais. mais après, il y a d'autres personnalités qui sont totalement étonnées, par exemple Luc Besson que j'ai reçu, je pense, ne savait pas où il venait, quoi.
Ça s'appelle À quoi tu sers, confidence sans détour, c'est chez Le Duc. Jordan Deluxe, restez avec nous pour commenter l'actualité des médias dans un instant.
Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant avec au menu ce matin ce nouveau programme de télé-réalité que TF1 pourrait tourner très prochainement. Le concept peut d'ailleurs faire penser à celui des traîtres.
Eh oui, on vous dit tout dans quelques secondes, à tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h, Thomas Hill sur Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? Réponse ce soir dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Amazon offre jusqu'à 8000 euros pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières. Sous condition d'éligibilité.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match.
Pour les 75 ans de Paris Match, nous vous proposons un numéro événement. Les 7 acteurs historiques du Splendide réunis pour un entretien et des photos exclusives. Un reportage exceptionnel avec les gueules cassées de l'armée ukrainienne et les tableaux de Notre-Dame de Paris entièrement restaurés.
Paris Match, numéro spécial anniversaire de 220 pages, en vente 3 semaines.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Jordan Deluxe et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Les audiences, que retenir de la journée d'hier, Julien?
Eh bien, ça ne bouge pas d'un lundi à l'autre. On retrouve quasiment exactement les mêmes chiffres. Comme ces derniers lundis, Meurtre au paradis sur France 2 était en tête avec une première partie à 3 700 000 téléspectateurs. TF1 suit avec les bracelets rouges, dont c'est la dernière saison, 2 et demi de téléspectateurs. Et M6 complète le podium avec Marié au premier regard et 2 200 000 témoins hier soir. Et puis, concernant le match des pré-access, les chiffres n'étaient pas mirobolants hier. Un Secret Story à 866 000 sur TF1, Le Juste Prix à 571 000 sur M6. À 17h30, 18h, c'est toujours France TV hein, qui est largement en tête, avec tout le monde à son mot à dire. Et question pour un champion sur la 3.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis à la une de ce journal des médias, le licenciement de ce journaliste de Radio France qui était accusé d'avoir participé à l'écriture d'une autobiographie de Jordan Bardella.
Jean-François Aquili, qui était à Radio France depuis 1989, soit 35 ans, a été licencié pour faute grave, plus précisément pour manquement répété aux obligations déontologiques relatives aux collaborations extérieures à Radio France. Sa direction lui reproche d'avoir approché le président du Rassemblement National pour éventuellement participer à l'écriture de son autobiographie. Le journaliste politique de 61 ans conteste les faits. Oui, j'ai échangé avec Jordan Bardella, comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. Nous avons parlé à sa demande de ce que pourrait être son expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet, a-t-il expliqué. Bon, ces explications n'ont visiblement pas convaincu la direction de Radio France qui avait déjà suspendu Jean-François Aquili à titre conservatoire le 14 mars.
Et puis Danse avec les stars, c'est fini, mais Natacha Saint-Pierre et Inès Reg n'ont pas encore totalement enterré la hache de guerre.
Elles étaient interviewées quasiment au même moment hier soir, vers 20h45. Natacha Saint-Pierre sur le plateau de TPMP, Inès Reg sur celui de Quotidien. Deux salles, mais peut-être la même ambiance, celle de la rancœur. Inès Reg tout d'abord a reproché à sa concurrente d'avoir provoqué un clash avec elle dans le seul et unique but de gagner.
Natacha était très intelligente, elle a voulu gagner, que elle s'est dit bah ça va marcher comme ça, ça fera du bruit. J'ai l'impression d'être un peu son producteur.
Ah, vous pensez que c'était qu'elle a fait du buzz pour justement gagner?
Bah oui, non mais c'est sûr, il y a une main courante sur rien, Yann. Je n'ai rien fait.
Inès Reg a aussi démenti avoir menacé de mort Natacha Saint-Pierre, et à la question pensez-vous avoir été victime de racisme, l'humoriste a répondu possiblement. Dans le même temps, Natacha Saint-Pierre, sur un ton peut-être plus apaisé, a estimé qu'Inès Reg l'a mise en danger en l'accusant de racisme. Ce sont des accusations qui peuvent avoir de lourdes conséquences, dit-elle. Elle est revenue aussi sur leur altercation qui était partie, selon elle, d'un échange très anodin pendant des répétitions.
Elle peut ne pas avoir compris mon humour, qui n'était pas formidable. Elle a le droit d'être vexée, mais en fait, on ne peut pas, parce qu'on est en colère, insulter de telle manière et être menaçant de cette façon-là. Ça, c'est pas correct.
On ne se connaissait pas avant, on ne se connaîtra pas après, a conclu la chanteuse. En tout cas, c'est peut-être la fin d'un feuilleton qui n'a pas toujours été évident à gérer pour TF1.
La fin sera peut-être le jour où on aura enfin cette vidéo de savoir ce qui s'est exactement passé. Vous avez suivi forcément, Jordan, ces débats. Hier, il y avait pas mal de réactions qui disaient qu'Inès Reg avait une communication assez catastrophique. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ah oui, mais c'est totalement catastrophique, en effet, oui. Puis franchement, accuser quelqu'un comme ça de racisme, enfin, je sais pas, je trouve ça tellement fou, quoi. Surtout Natacha Saint-Pierre, qui en plus, moi, je la connais parce qu'on la voit souvent dans les bureaux. Puis c'est vrai que c'est une amie C8. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Ouais. Et surtout, elle crée ce buzz. Elle perd et elle est encore en train de raconter je ne sais quoi. La main courante est sur rien. Enfin, moi, je fais une main courante, c'est pas sur rien. Hein. Donc, je sais pas, ça m'étonne et je trouve ça, ouais, je trouve que c'est sale, quoi, au final, tout ça.
Bon, et puis TF1 préparait un nouveau jeu dont le concept peut faire un peu penser au Traître.
Oui, ou un célèbre roman d'Agatha Christie, même s'ils seront plus que 10 ici. Selon le journaliste Clément Garin, ce jeu serait sur le point d'être tourné. Le concept alors, 15 célébrités enfermées dans un château, l'une d'entre elles est l'hôte de la soirée. Les 14 autres vont devoir deviner de qui il s'agit. C'est un jeu qui serait produit par Fremantle, toujours selon Clément Garin. Il y a 3 animateurs qui seraient pressentis pour animer le programme. Camille Combal, normal, hein, TF1, Jean-Luc Reichmann aussi, normal, TF1, et Jarry, ancien Jarry. TF1, mais actuellement sur France 2, et qui va quitter d'ailleurs cet été, tout le monde veut prendre sa place, le jeu de France 2 qui l'anime depuis l'été dernier, voilà, apparemment. Donc,
ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, rumeurs, on attend voilà, évidemment la confirmation. Et puis les chaînes ont commencé à dévoiler leur programme de deuxième partie du mois de mai, et parmi les événements annoncés, la première diffusion d'un film qui avait attiré plus de 6 500 000 téléspectateurs au cinéma en 2022.
Ben oui, si je vous dis Blouson et Reba, vous avez tout de suite deviné
Maverick.
De quel film voilà, s'agit-il.
Jordan
de luxe.
Ah oui, il aurait été très bien dans Top Gun.
Ah oui, on aurait été beau ensemble.
L'un des plus gros succès de la décennie au cinéma sera diffusé le 15 mai sur M6. C'est une première diffusion en clair à la télévision. Tom Cruise pourrait faire booster les audiences d'M6 ce soir-là. M6 qui, d'ailleurs, a signé quelques jolis scores récemment avec le cinéma. On se souvient que la semaine dernière, Stillwater avec Camille Cotin et Matt Damon avait attiré plus de 2 millions de téléspectateurs. On peut penser qu'il y en aura encore plus.
Il y a des chances.
Et c'est rare quand le 2, 35 ans après, est aussi bien, voire mieux que le premier.
Il est exceptionnel.
C'est un très bon film.
Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Merci aussi Jordan Deluc. Tiens, vous en avez tout de votre programme pour cet été dans une piscine avec des stars.
Mais vous êtes bien informé. Mais oui, exactement. On est en train de faire. Alors j'ai la première invitée. Normalement, il y en a qu'une qui a accepté parce que c'est dans une piscine et voilà, c'est en projet.
Donc en maillot de bain. Voilà, c'est des invités en maillot de bain.
Normalement en maillot de bain et celle qui a accepté, c'est Daniel Gilbert.
Daniel Gilbert a accepté.
Oui. Bon, ça avec en fait des une gonfleurs et un très beau maillot de bain, une pièce, ça va être magnifique.
On a hâte de voir ça.
Je vous attends. Et juste, je voulais vous remercier par cette gentillesse que vous avez eu de m'inviter. Je suis trop heureux parce que dans le bouquin, je raconte que la première interview que j'ai faite, c'était avec Laurent Baffy sur Europe 1.
C'est vrai.
L'émission s'appelait C'est quoi ce bordel? Ouais. Et je sais que les audiences montent beaucoup sur la matinale. Je crois que c'est la matinale qui monte le plus. C'est vrai. Je voulais vous féliciter parce que franchement, c'est pas facile la radio. Vous avez créé une ambiance magnifique où on se sent bien. Bravo et c'est merci d'avoir invité.
Merci beaucoup, merci Jordan. Et on renvoie donc à la lecture de À quoi tu sers, Confidence sans détour. C'est chez Le Duc Édition.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, et on sera avec la philosophe Claire Marin et puis le chanteur Hervé interprétera son nouveau titre en direct dans ce studio.
Et un nouveau rendez-vous à noter sur Europe 1, ça a commencé hier soir, c'est votre grand rendez-vous d'information tous les soirs de 19h à 21h, Europe 1 Soir présenté par Pierre de Villeneuve. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter, débattre de l'info de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Rendez-vous tout à l'heure, 19h-21h avec Pierre de Villeneuve.
Europe 1. Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1, c'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur, je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse Valérie, faites
bon usage. Ça part bien les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non.
L'actu c'est ma meilleure copine, elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas. Non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les besoins s'envolent, les entreprises peinent à recruter. Virginie Pires, bonjour.
Bonjour.